Chapitre 73. Transi de froid, Gabriel remonta la fermeture de son blouson en cuir, le col fourré jusqu'au niveau des oreilles, et quitta l'hôtel. Il regrettait de n'avoir embarqué ni bonnet ni gants. 9h, 1 degré. Une épaisse brume gorgée d'humidité s'enroulait autour des arbres et ramenait l'horizon à portée de main. Dans la voiture, il tourna le chauffage à fond, regagna la DW896 et observa le compteur kilométrique dès qu'il laissa le village dans son dos. 5 kilomètres plus loin, il roula au ralenti, l'œil rivé sur la droite, comme lui avait dit la veuve. Il détecta le chemin enfoui dans la végétation dont nul panneau ne signalait la présence et bifurqua dans la forêt sur une voie de caillasse en légère pente. Après une centaine de mètres, une grille lui interdit d'aller plus loin. « Vlasnost privatna ». Était-il inscrit sur une plaque ? Propriété privée, supposa-t-il. Un simple cadenas maintenait les portes en métal fermées. Il longea pendant plusieurs minutes un grillage tendu entre les troncs d'arbres qui délimitait, semblait-il, un vaste territoire. Gabriel le franchit sans difficulté, s'accrochant à des branches. Déjà que marcher dans une forêt embrumée était impressionnant, alors les Carpates polonaises, peuplées de loups qui sans doute l'avaient flairé à des kilomètres, il s'attendait à ce qu'un hurlement transperce le silence, mais il n'y eut que le bruissement de ses pas. La silhouette du chalet se découpa au milieu des troncs de hêtres, d'érables et de sapins blancs. C'était une imposante structure en rondin de plein pied, à la porte en bois sculpté de rosaces. Les lourds volets étaient clos. Une ligne électrique partait de la toiture pour aller se perdre dans les ténèbres, peut-être vers l'habitation d'un autre riche propriétaire quelque part. Gabriel fit rapidement le tour. Il estima que le seul moyen d'entrer était de forcer les volets. En tirant autant qu'il put, il tordit l'espagnolette, puis cassa la vitre. « Je suis gendarme, je sais faire », avait-il dit à la veuve. Il se rassura en se disant que personne n'irait porter plainte. Après avoir glissé son bras dans le trou et baissé la poignée, il ouvrit la fenêtre et se faufila à l'intérieur. Il colla sa main sur le radiateur, positionné en mode hors-gel, ce qui assurait une dizaine de degrés minimum. Le plancher craqua sous ses pas. La pièce de vie, avec charpente apparente, était traversée de poutres massives. Une large cuisine d'un côté, le salon salle à manger de l'autre. Le buste d'un loup trônait à gauche d'une cheminée en pierre, à proximité d'une série de 3 fusils accrochés les uns en dessous des autres. Du gros calibre. Des tableaux de paysages, doux et apaisants, ornaient les murs. Rien à voir avec le clinquant manoir belge. Depuis la mort brutale de Chmielnik, personne n'était censé avoir mis les pieds dans ce chalet, et pourtant Gabriel n'eut pas l'impression d'un lieu à l'abandon. Il n'y avait presque pas de poussière. Il s'approcha des coussins du canapé d'angle en tissu et imagina l'industriel assis à cet endroit, au coin du feu, en train de lustrer les crosses de ses armes et de se préparer à la traque au loup. Il se dirigea vers le couloir, jeta un œil à la grande salle de bain avec sa baignoire à remous et ses matériaux de qualité, explora la première chambre. Dans la penderie, des tenues de chasse, de lourdes bottines, des boîtes de cartouches. Les instincts de Chmielnik se réveillaient sans doute lorsqu'il revêtait ses habits. Il devait y avoir quelque chose de terriblement excitant à poursuivre ses prédateurs dans une telle forêt. À épauler, à verser le sang. La seconde chambre, plus loin, devait être réservée aux amis. Armoire vide, décoration sommaire. Là encore, quelqu'un semblait avoir occupé les lieux récemment. Gabriel remarqua posé près d'un porte-manteau 2 toiles immaculées, emballées dans de la cellophane, 2 bouteilles de white spirit, ainsi qu'un jeu de pinceaux serré par un élastique. Il balaya la pièce du regard avec la certitude que Chmielnik possédait un autre atelier quelque part dans cette maison. Il lui paraissait évident que l'homme ne venait pas plusieurs fois par an dans cette forêt juste pour chasser le loup. Gabriel visita chaque mètre carré de l'habitation, ouvrit toutes les portes, scruta le moindre placard. À l'extérieur, il parcourut l'ensemble de la propriété délimitée par le grillage, à la recherche d'une cabane, d'une remise quelconque, sans rien trouver. Il se rappela les peintures de Julie et Mathilde, celles du jeune homme chez Pascal Croisil. Les murs irréguliers en pierre et surtout les racines d'arbres pendues au plafond de la voûte basse. Et s'il ne fallait pas regarder autour de lui, mais sous ses pieds. Il rentra, recommença son exploration le nez au sol, bougea le canapé dans le séjour, poussa des meubles. Son cœur se serra quand, dans la chambre d'amis, il découvrit le large tapis noir et gris sous le lit, le seul de tout le chalet. En poussant le lit, il constata des rayures sur le parquet au niveau des pieds, qui le confortèrent dans son idée. Il imagina Chmielnik réaliser exactement les mêmes gestes, roula le tapis et dévoila une trappe carrée d'au moins 1 mètre de côté. Un anneau d'acier était incrusté dans l'épaisseur du parquet. Gabriel eut le sentiment d'un aboutissement, d'une quête désespérée dont le dénouement douloureux se rapprochait enfin. Il leva le cercle métallique et la laine des ténèbres lui arriva en pleine figure.